Baba, Sophie Lecomte. Léo Ferré de Tendresse et de Révolte. Édition Adodan. Nous sommes en juin 1970. Après 14 ans d'écriture, Léo Ferré met le point final à son unique roman, Benoît Misère. 14 années pour écrire sa jeunesse, c'est qu'il en a des histoires à raconter. Il faut dire qu'il est l'un des trois plus grands chanteurs francophones du XXe siècle, aux côtés de Brassens et Brel. Mais devenir l'immense compositeur-interprète passionné que le monde reconnaît aujourd'hui, ça lui a demandé du temps, de la patience et du courage. Léo naît au bord de la mer à Monaco en 1916. La mer et la guerre sont donc ses premiers décors. La mer surtout, qui sera présente tout au long de sa vie. Il se ruinera même un jour pour acheter la petite île du Guesclin en Bretagne où il écrira La mémoire et la mer, ma chanson préférée. J'y reviens tout à l'heure, nous sommes au début. L'enfance à Monaco, les promenades sur les galets, les parfums de la marée, celui des pâtes fraîches aussi. Aux sauces mijotées, l'odeur des tissus dans la petite boutique de couture que tient sa maman. Dehors, les chevaux tirent les charrettes. Il les aime déjà, les chevaux. Il faut dire que le grand-père est cocher de fiacre. Il écoute tout cela, le vent, les vagues, les voix, et de temps en temps, face à la mer, au perché, il dirige des orchestres imaginaires. À la maison, il fait semblant de jouer du violoncelle avec un manche de brosse. Mais c'est à 11 ans qu'il connaît sa première rencontre inoubliable avec la musique. Il est alors élève au pensionnat italien de Bordighera et sa maman vient le chercher certains jeudis pour lui offrir un chocolat chaud. Dans la crèmerie, ce jour-là, le patron choisit de diffuser la 5e symphonie de Beethoven. Surpris et touché par la force inouïe des violons et des cuivres, Léo se met à pleurer. Il sait que sa vie ne sera plus la même, qu'elle ne se passera sans musique. Par l'heure, il s'est trouvé un refuge. Et bon sang, avec ce qu'il vit au pensionnat, un refuge est plus que bienvenu. Le pensionnat. L'école de Bordighera est d'une sorte qui n'existe plus, tenue par des prêtres, un lieu froid où tu apprends, où tu te tais, où tu portes un numéro. Léo Ferré devient Léo 38. Il faut dire que son père souhaite pour lui une école sévère. Mais loin d'apprendre la discipline, Léo, 38, apprend à se révolter. Sa première grande révolte, il la vit lorsqu'un douanier contrôle son petit sac et lui dit qu'il ne peut pas emporter les 6 bananes que sa maman lui a données. Léo pèle alors les 6 fruits, les mange tous et dit au douanier « Voilà, vous pouvez garder les pots ». Il n'apprend donc pas non plus à se taire, il apprend à hurler et à chanter. Dans les livres de messe, il glisse des poèmes de Rimbaud et Verlaine, poètes célèbres qu'il mettra en musique. À Bordighera, tout cela est interdit. En plus de devoir cacher ce qu'il aime, apprendre et d'être loin de sa famille, Léo connaît l'ennui et la solitude. Il est maltraité par certains prêtres.
Si t'as jamais vu le frère des écoles chrétiennes, même dans un bocal, il faut y aller, il faut les voir. Ça vaut le coup, hein.
La musique et la poésie le consolent. Il y découvre un bonheur qu'il ne quittera plus. Une passion qui changera en une œuvre d'art tout ce qui le mettra en colère. Le rendra triste ou profondément ému. C'est là, entre les grands murs du pensionnat, que le cœur de Léo devient un cœur d'artiste. Lorsqu'il en sort, 7 ans plus tard, il étudie la philosophie, puis songe à une carrière de dentiste, jusqu'au jour où il asperge de ses produits les yeux d'un patient. Ensuite, il multiplie par la radio les métiers du régisseur, pianiste, bruiteur et même balayeur, dira-t-on. Plus tard, encouragé par la chanteuse Édith Piaf, il décide enfin de rejoindre Paris pour tenter sa chance. Mais le chemin vers la gloire sera bien plus long que dans ses rêves.
Radio, radio, tu veux me dire quoi là? Féric Club, la radio sur la radio libertaire, voilà.
La vie d'artiste, 1950. Léo a 34 ans et c'est toujours la bohème. Cette vie pauvre au jour le jour. Des centaines d'heures au piano, des refrains maladroits chantés dans une cave pour 30 personnes qui écoutent à peine, le doute et le découragement. Il veut abandonner, mais que faire d'autre? Bientôt, un producteur lui propose une tournée en Martinique. Enchanté, Léo accepte et s'en va au bras d'Odette, son épouse. Là-bas, il passe plus de temps devant un verre d'alcool que devant un micro. Plumé au bout de 6 mois par son impresario, il doit mendier l'argent du retour auprès de son père. Odette le quitte et c'est le déroute courageusement. Mais que faire d'autre? Et puis c'est coriace un artiste, disait-il. Alors il écrit une chanson de plus, La vie d'artiste. Dans ce texte, il s'adresse à Odette et qui lui parle de l'amour perdu et du succès qui tarde à venir, un succès dont il prétend se moquer de toute façon.
Je m'en fiche.
Cependant, voici l'éclaircie dans la grisaille. Le célèbre acteur Jean Gabin lit pour la radio son long poème de sac et de cordes, avec tant de force et de sensibilité que Léo retrouve l'espoir et sa table d'écriture. Il ouvre son cahier à la page de la vie d'artiste et décide de composer un opéra qui fera sensation. Vraiment? Non, monsieur Ferrier, rien. Un an de mal au dos et de mal aux yeux, pour rien. Refusé à l'opéra de Milan, refusé en radio, il peut ranger ses pages dans un tiroir. C'est la misère encore, l'interminable misère. Mais Léo s'acharne. Il compose encore et se retrouve 2 ans plus tard avec une chanson parfaite, Paris Canaille. La mélodie est sautillante, un petit côté Tagada de Saint-Ouen qui donne envie de danser, puis un air plus doux, reposant. Tout cela porté par des mots à la mode, néon hold up, surprise party, les teufs d'aujourd'hui. Il la propose à quelques célébrités. Non Léo, il y a trop de paroles. Puis, non Léo, j'ai déjà vu une chanson de gangster. Enfin, il s'adresse à la vedette Catherine Sauvage en lui disant « Voilà, vous avez votre chanson ». Et là, c'est un succès au-delà de la France. On la faisonne partout, elle cartonne dans les jukebox, ces machines que l'on trouve dans les bars de l'époque et permettent aux clients de choisir une chanson. Ce n'est pas la gloire encore, mais on commence à connaître son nom.
Autour de Léo Ferré, de son sourire méphistophélique, flotte toujours cette légère odeur de soufre des poètes damnés.
Vous savez, la poésie, c'est... Le poète, c'est un type, c'est un fou admis, quoi. Tout juste.
Un conte de fées. Nous sommes en 1953, peu avant Noël. Alors qu'il foule en scène de cabaret à Paris, Léo apprend que le prince régnier de Monaco fera le voyage pour l'entendre. Encouragé par son épouse Madeleine, il aborde le prince ce soir-là et timidement lui parle de musique, de son immense passion pour elle et pour la poésie. Il lui parle aussi de la chanson du mal-aimé, un texte du poète Apollinaire. Il en fait également une sorte d'opéra dont personne n'a voulu. « Où pourrais-je l'entendre ?» demande le prince, que le couple ferré invite aussitôt dans son petit appartement parisien. Pour l'occasion, ils couvrent les tables de fleurs rouges et blanches, les couleurs de Monaco, et mettent au frais le meilleur champagne. Le prince vient goûter Léo. « Très bien, dit-il, mais ce n'est pas assez. » En 3 mois, le chanteur compose une symphonie. Séduit cette fois, le prince met à sa disposition l'opéra de Monte-Carlo. Ses amis lui offrent une baguette de chef d'orchestre et c'est un triomphe. Est-ce le début de la gloire, enfin ? Léo doit reconnaître en tout cas qu'il n'est pas si mal aimé. La mémoire et la mer. Plus que la Méditerranée calme et bleue, Ferré aime l'océan, surtout la Bretagne, aux grandes marées. À tel point donc qu'en allant payer la location d'un piano, il entre dans une agence et dit qu'il souhaite acheter une île. Un peu plus tard, le voici ruiné sur la grève de la petite île du Guesclin, pleurant de bonheur. Dans le château sombre perché là, il commence à écrire de longues pages qui deviendront des chansons. Il rédige aussi une belle lettre à la mère, où il nous dit que s'il l'aime tant, c'est qu'elle n'est fermée par rien. Elle est le contraire du pensionnat de son enfance. La mère, il l'écrit, la contemple, il y pêche aussi, avec Maurice Fro, son ami poète. « Tiens, dit-il en sortant de l'eau un étrange poisson, qu'est-ce que c'est que ça ?» Fro lui répond qu'il s'agit d'un chien de mer, surnom de la Roussette. Léo aime tellement les chiens qu'il la libère aussitôt. Depuis son île, les soirs froids, il voit une sorte de brume blanche comme un fantôme sur l'horizon. Peut-être l'île de Jersey, pense-t-il. Ce que Léo ne fait jamais, c'est naviguer car il souffre du mal de mer. De même, il adore les chevaux, mais panique à l'idée d'en monter un. C'est pour cela sans doute qu'il appelle les vagues les chevaux de la mer. La mémoire et la mer, c'est la chanson que j'écoute en boucle quand je suis sur le point d'achever l'écriture d'un livre. La mélodie est douce, émouvante, elle monte très haut puis redescend lentement. Comme la mer là-bas, Ferré expliquait que, pour comprendre cette chanson, il fallait connaître sa vie. Maintenant que tu connais l'histoire de Jersey et du chien de mer, toi tu la comprendras un peu quand tu entendras. Appelle-toi ce chien de mer que nous libérions sur parole.
Quand j'étais petit, j'avais un oncle qui avait un chien qui s'appelait Dick. Et ce chien, mon oncle, il allait dans des bistrots comme ça. Et puis, de temps en temps, il venait chez ma mère, m'apportait des croissants. Pour moi. Et ce chien, des fois, il était seul à la maison, et l'oncle était parti. Et il prenait le tramway, le chien. Et il changeait de tramway au moment où il fallait changer. C'est extraordinaire. Ça s'appelait Dick.
L'Arche. Ce que tu sais aussi, c'est que Léo Ferré aime les chiens et les chevaux. Mais pas uniquement. Lorsqu'il s'installe dans le château de Perdigral, dans le Lot, en pleine campagne, il a vite fait de changer de lieu en une arche incroyable où se côtoient moutons, vaches et chèvres, en plus d'un cochon baptisé Baba. Mais il y a surtout Pépé, femelle chimpanzé, aimée comme un enfant. C'est elle qui sert le vin à table et signe les invitations au concert. Le jour où Paul, le pianiste aveugle de Léo, vient en visite à Perdigral, Pépé passe une main devant ses yeux avant de guider lentement jusqu'au vert les doigts du pianiste. En fait, chaque animal qu'il aime rappelle à Léo quelque chose d'humain. Par exemple, il trouve au hibou le visage de l'amour et de la solitude. Bientôt, La vie devient éprouvante au milieu de cette ménagerie. En avril 1968, c'est le drame. Madeleine fait abattre Pépé et Baba. Retranchée dans une petite chambre d'hôtel en Bretagne, Léo écrit alors Pépé, une de ses plus belles chansons.
Parlez-moi de Madeleine, d'Annie, de Pépé, des chiens, de la campagne. Non. Léo, je crois qu'en tous les cas, il y a une chose.
Non, on va reprendre. Parce que...
Amour anarchie. Voilà deux mots qui donnent un titre parfait à l'un des albums de Ferry. L'immense provocateur.
Yes !
Comme il se nomme lui-même dans une chanson depuis le pensionnat, Léo ne supporte plus les chefs. On appelle anarchie ce refus de toute autorité. Le mot plaît à Léo, qui le chante souvent. Il consacre de nombreuses chansons à critiquer sévèrement le monde. Les vitrines, la révolution, mon général et la vie moderne deviennent autant de titres. Il y en a marre aussi. Ou encore, les temps sont difficiles. Toutes les injustices passeront par sa voix forte et son piano. Il provoque, oui, crie en scène qu'il en a marre du pouvoir. Le pape, le militaire, la télé, le patron, tout y passe. Alors, il ne manque pas d'ennemis, Léo. Mais peu importe, l'artiste est là pour montrer du doigt la bêtise des hommes. C'est souvent ce que les livres retiennent de Ferry, chanteur de combat, comme l'appelait le journaliste Claude Sarotte.
Qui sème la misère ?
Mais il est aussi un merveilleux chanteur de l'amour. « Je suis tout simple avec un cœur gros et je donne », dira-t-il à la fin de sa vie. Et quand il chante l'amour, ce n'est pas pour faire du commerce, c'est pour une femme ou un ami proche. Pour Pépé, pour Amria, la petite marchande de fruits, si pauvre en rayon, au bord de la route africaine. Parfois, l'amour blesse et on se fâche. Certains couplets portent la vengeance et le regret. Quand j'écoute, ça te va. Je n'entends que la passion, la joie d'aimer, la fête du cœur. C'est le plus beau cadeau offert par Léo à son épouse Madeleine. Du vrai, toujours du vrai. Sa vie mise en musique, et quelle musique! La musique dans la rue. La musique partout, pour tous, pour les chagrins et pour la joie, la colère, la solitude. Soucieux de perfection, Léo soigne toutes ses mélodies et choisit l'instrument idéal pour chaque œuvre. On entend le merveilleux violon d'Ivry Gitlis dans Les Étrangers, la guitare très douce du liégeois Lukowski dans La Tristesse, ici les chœurs, là l'orchestre, un groupe pop, l'accordéon, piano du pauvre, rien n'est laissé au hasard. En scène, il passe du piano au micro, où il se tient droit, tête haute, les cheveux en vague argentée. C'est à peine s'il lève un poing serré de temps en temps. En scène, il est chez lui. D'ailleurs, il y reste souvent plus de 2 heures. À l'âge de 57 ans, il chante un soir 70 chansons, 4h30 de scène. Un record. Il puisa sa force dans une vie nouvelle en Toscane, auprès de Marie-Christine, son dernier amour, et de leurs 3 enfants. C'est dans cette paix qu'il chante ses derniers poèmes. Ne jamais mourir. Léo disait faire semblant qu'il n'allait jamais mourir. Quand on laisse autant de chansons et de poésie derrière soi, c'est peut-être un peu vrai. La cigarette a eu raison de lui. Il s'est éteint, comme on dit. Le 14 juillet 1993. Jour de fête nationale et repose à Monaco, non loin du rocher que l'on appelle la tête de chien. Ça lui va. Les jours de bohème, il disait... Le jour où je pourrai m'acheter un chien, ça ira bien. Il en est donc de pierre pour l'accompagner dans l'éternité. Mais il ne faut pas s'attarder sur la mort. Sujet tabou pour poète maudit. Écrivait pour lui le poète Cosimon. Je laisse à Ferry les derniers mots. Tu nais tout seul, tu meurs tout seul. Entre les deux, il y a des faits divers que je te souhaite de choisir. Parce que la plupart du temps, ces faits divers, ils te sont imposés. Alors fais tout ce que tu peux pour garder tes faits divers avec toi.
La marée, je l'ai dans le cœur, qui me remonte comme un signe. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon signe. Un bateau, ça dépend comment, on l'arrime au port. De justesse, il pleure de mon firmament, des années-lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme Jersey, celui qui vient les soirs de frime. Te lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes comme le trémail de juillet où luisait le loup solitaire, celui que je voyais briller. Au doigt du sable de la terre. Rappelle-toi ce chien de mer que nous libérions sur parole, qui gueule dans le désert des goémons de nécropole. Je suis sûr que la vie est là avec ses poumons de flanelle. Quand il pleure de ces temps-là, le froid tout gris qui nous appelle. Je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés sur l'écume. Cette bave des chevaux rats au ras des rocs qui se consument. Oh, l'ange des plaisirs perdus aux rumeurs d'une autre habitude. Mes désirs dès lors ne sont plus. Qu'un chagrin de ma solitude. Et le diable des soirs conquis, avec ses pâleurs de rescousse, et le squale des paradis, dans le milieu mouillé de mousse. Revient fille verte des fjords, revient violon des violonades, dans le port fanfare les corps pour le retour des camarades. Oh, parfum rare des salants dans le poivre feu des chersures, quand j'allais géométrisant mon âme au creux de ta blessure, dans le désordre de ton cul poissé dans les draps d'aube fine, je voyais un vitrail de plus. Et toi, fille verte, mon spleen. Les coquillages figurants sous les sunlight cassés, liquide joue de la castagnette, tant qu'on dirait l'Espagne livide, Dieu des granites. Ayez pitié de leur vocation de parure, quand le couteau vient s'immiscer dans leur castagnette figure. Et je voyais ce qu'on pressent, quand on pressent l'entrevoyure entre les persiennes du sang et que les globules figurent. Une mathématique bleue dans cette mer jamais étale, d'où nous remonte peu à peu cette mémoire des étoiles. Cette rumeur qui vient de là, sous l'arc-en-ciel où je m'aveugle, ces mains qui me font du fla-fla, ces mains ruminantes qui me... Cette rumeur me suit longtemps, comme un mendiant sous l'anathème, comme l'ombre qui perd son temps à dessiner mon théorème. Et sur mon maquillage roux s'en vient battre comme une porte. porte cette rumeur qui va debout dans la rue aux musiques mortes. C'est fini la mer, c'est fini sur la plage le sable belle comme des moutons d'infini.